الرحمن الرحيم اللهم صل على أشرف الأنبياء والمرسلين. Ceci étant dit, on va commencer un petit peu à parler de voilà du thème qui est où et comment apprendre sa religion en France. Et j'avais même rajouté en 2022 parce que ça évolue en fait. La manière dont on doit s'assurer d'un bon enseignement, il évolue avec le temps et il évolue avec l'actualité. Pour commencer, je voulais dire qu'on a créé un nouveau club qui s'appelle l'Islam avec un L apostrophe. Donc la marque du français. Si on avait mis juste Islam, on aurait pu le confondre avec des clubs anglophones. Donc avec un L apostrophe, c'est la marque du français. Et c'est un club, Inch'Allah, pour tous ceux qui veulent publier une room ou qui veulent développer quelque chose. Ils peuvent utiliser, Inch'Allah, ce club. Ce club, pourquoi? Parce que le premier grand capital du croyant, c'est son temps. Et le deuxième plus grand capital du croyant, c'est quoi? C'est la science. Et le plus important, c'est quoi? C'est de réussir à sécuriser les informations qu'on acquiert. Ça, c'est une des grandes priorités du croyant. C'est pour ça que d'ailleurs que les ulama, ils ont développé la science du hadith, c'est-à-dire pour sécuriser l'information. Comme une fois un frère, il avait dit que la science du hadith c'était la première blockchain. Et c'était drôle et c'est un petit peu vrai, c'est un peu ça. La sécurité de l'information est très importante en islam et c'est même une clé. Donc on crée ce club d'islam comme on avait fait sur Facebook avec le groupe les Malikites, etc. pour faire un sanctuaire où l'information elle est triée. Parce que voilà, c'est pas sur Google, les réseaux sociaux, c'est la jungle. On pose une question, c'est la jungle. Tout le monde répond. Une chose et son contraire. Donc au moins, sur des espaces comme ça, des sanctuaires délimités, on a une sécurité dans l'information. Ça coûte très cher. Jamais l'information n'a été aussi partagée dans l'histoire des humains et jamais elle a été aussi confuse. Pourquoi? Parce que en France, on n'est pas dans un pays musulman. Et il n'y a pas de ministère des affaires religieuses pour trier, pour dire ce qui est conforme, ce qui n'est pas conforme, quelle est la ligne idéologique qu'on veut. Parce que la plupart des prédicateurs qu'on voit sur YouTube, si on était dans un état musulman, et ben, ils n'auraient même pas le droit de parler, ou bien ils seraient en prison. Et on peut citer plein de noms. On peut en citer plein des noms. Tous les youtubeurs qu'on voit, les prédicateurs, les soi-disant, ceux qui vendent des formations de la prière ou je sais pas quoi. Tous ces personnages-là, ils n'auraient même pas le droit de parler dans un état musulman, comme à l'époque de l'Empire ottoman, ou bien ils seraient en prison. Pour les gravités qu'ils ont dit, qu'eux-mêmes, ils reconnaissent les gravités qu'ils ont dit. Un, il a dit, oui, dans les débuts, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur le sujet de la croyance et aussi dans la pratique. Et 10 ans après, il dit ça. Et comme une fleur, il dit ça, comme si les 10 années où t'as égaré les gens, où t'as dit n'importe quoi, ça n'a pas de conséquences. Or, c'est très important de ne pas prendre la parole avant d'avoir eu une autorisation d'un cheikh, d'une instance ou d'un collège de savants pour t'autoriser à prendre la parole au sujet de la religion musulmane. Parce que quand tu vas évoquer Allah et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils vont te faire confiance, ils vont ouvrir leur cœur, étant donné que tu viens avec des choses sacrées, ils vont dire les gens, lui, il ne va pas mentir. Or, ce n'est pas une question de mensonge. C'est une question de se tromper. Tu peux très bien être de bonne foi et te tromper. Ensuite, pour finir cette petite introduction, je voulais rappeler qu'aujourd'hui, on est le 31 décembre. Et comme certains, ils vont fêter ça avec différentes méthodes, ils vont boire, ils vont danser, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Le croyant, lui, il est vigilant. Là où les insouciants et les gens distraits, ils s'adonnent à des turpitudes, à faire des péchés, eh bien, au même moment, le croyant, il fait quoi? Il marque sa distinction, il marque sa différence. Donc, c'est une nuit, ce soir, en vérité, qui est une bonne occasion pour faire des adorations, d'accord? Quelle qu'elle soit, lire du Coran, faire le dhikr, rajouter des prières surérogatoires, faire des choses liées à sa spiritualité et au lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut profiter de ces moments-là où les gens sont égarés pour nous marquer qu'on est des serviteurs fidèles et loyaux. Donc on commence directement par rapport au thème qui nous concerne sur la façon d'apprendre la religion musulmane. Pour commencer, il faut faire la distinction déjà, quand on dit apprendre sa religion, déjà, qu'est-ce que la religion ? La religion, l'islam, c'est une religion, mais c'est aussi une science. Et comme toutes les sciences, elle a une histoire et elle a une technique. D'accord ? Il faut réussir à faire la part des choses et distinguer les différentes sciences en islam. Il y a plusieurs disciplines. Il y a la science de la croyance, il y a la science de la jurisprudence, il y a la science de la purification de l'âme, il y a la science du hadith, il y a la science du Coran, et dans la science du Coran, il y a les sciences du Coran, d'accord, comme la distinction entre al-muhkam ou al-mutashabih, le clair et l'équivoque, la chronologie des versets, l'abrogeant et l'abrogé, les circonstances de la révélation, d'accord, tout ça, ça fait partie des sciences du Coran. C'est pour ça que c'est très important de faire la distinction entre les différentes sciences, et dans chaque science, il y a des sous-sciences. Ceci étant dit, par ordre de priorité, il faudrait essayer d'aborder les sciences, par ordre de priorité. La grande priorité pour le croyant, c'est quoi ? C'est la croyance, d'accord ? On appelle la science de la croyance en arabe, la aqida, ilm al-aqida, ou bien ilm al-tawhid. C'est la même chose. Là où vous entendez At-Tawhid, où vous entendez Al-Aqida, c'est la même chose. C'est-à-dire, ça fait référence à la science de la croyance. C'est quoi ? C'est ce en quoi on doit croire. Donc, c'est les six piliers de la foi. Mais les six piliers, c'est les grandes catégories. Mais ensuite, on peut rentrer dans le détail. Parce que quand on dit les six piliers de la foi, croire en Allah, juste le premier pilier de la foi, on peut le subdiviser ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah ? D'accord ? Quels sont les attributs d'Allah ? Qu'est-ce qu'on a le droit d'attribuer à Allah ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'attribuer à Allah ? Ça fait partie d'une science. C'est la grande priorité pour le croyant. Parce que c'est le socle. C'est comme on veut construire une maison, on a besoin de faire des fondations. C'est la fondation de base sur laquelle on va construire sa maison. Et la maison, c'est quoi ? Si on file la métaphore, c'est toute sa vie d'adoration. C'est-à-dire, ses cinq piliers. Sa vie de prière, sa vie de jeûne, sa vie de jeûner le mois du ramadan et des jeûnes surérogatoires, son hajj, tout est basé sur quoi ? La croyance. C'est très important. Parce que il ne faut pas se tromper dans à qui on adresse nos adorations. Les adorations sont faites pour Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord ? C'est qui Allah ? Parce que selon les attributs et la manière dont on va définir ce Allah, c'est-à-dire ce Dieu, alors on va voir qu'il y a des grandes différences entre déjà les religions monothéistes et les religions polythéistes. Parce que beaucoup prétendent croire en Dieu. Déjà une grande distinction. Ensuite, dans les religions monothéistes, la manière dont nous, on qualifie Allah Ta'ala tel que lui, il s'est qualifié, que nous, on suit, alors on va encore se distinguer les croyants musulmans par rapport aux juifs et aux chrétiens. Parce que la manière dont on a de croire en Allah n'a rien à voir avec les autres religions. Et à l'intérieur même de l'islam, cette qualification d'Allah, elle va marquer la différence entre le vrai et le faux. Donc la grande priorité, c'est quoi ? Al-Aqida. L'imam Ibn al-Jawzi, il dit que si on doit enseigner à quelqu'un la religion, dans l'ordre de priorité, on choisit quoi ? Donc on lui enseigne la croyance, puis les obligations qu'il peut faire, c'est-à-dire sa prière, etc., qui arrive. Là, on parle, voilà, il y a une prière qui va arriver bientôt. Donc, il faut connaître cette obligation et connaître comment on la réalise. Et ensuite, apprendre le Coran. Donc, dans l'ordre, al-aqida, ensuite, al-fara'id, dans le fiqh, c'est-à-dire dans la pratique, les obligations dans la pratique de sa religion. Ensuite, le Saint-Coran. D'accord ? Le Saint-Coran, c'est-à-dire la mémorisation et les différentes sciences. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit qu'il faut apprendre en priorité à la aqida, ce n'est pas forcément l'une après l'autre. On peut apprendre plusieurs sciences en même temps. D'accord ? C'est pas parce que j'ai commencé à apprendre l'aqida que je vais attendre de finir bien on va dire, le premier chapitre pour commencer à apprendre les obligations de la prière, par exemple. Non, j'apprends en même temps. Je lis, j'apprends, avec un enseignant, idéalement, la matière de la croyance et en même temps la matière du fiqh. Le fiqh, c'est-à-dire la pratique de la religion musulmane. En même temps. Et en même temps, je mémorise du Coran, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de corriger ma fatiha, j'ai besoin de corriger mes sourates. Donc j'apprends tout en même temps. Mais que ces choses-là, que ces trois choses-là, ça serait déjà bien. Donc on n'est pas obligé de les apprendre les unes après les autres, on peut les apprendre en même temps. Ensuite, un conseil qu'on donne, mais c'est valable dans toutes les sciences, c'est quoi? C'est la régularité. Celui qui apprend beaucoup, mais rarement, il ne retiendra pas. C'est la manière dont fonctionne le cerveau humain. C'est, il faut, quand on apprend quelque chose, il faut le consolider. Il faut le réviser. Sinon, ben, on oublie en fait. Donc mieux vaut peu régulièrement que beaucoup de manière sporadique. Ensuite, maintenant qu'on a parlé un petit peu des différentes sciences et des priorités dans la science, on va donner un petit peu une méthode, d'accord, pour apprendre sa religion. C'est très important ce que je dis parce que c'est une démonstration en fait. On va arriver à la question de où. Où et comment apprendre sa religion en France, c'est une démonstration. La aqida, la croyance, elle est surnommée, parmi les noms qu'on lui donne, on l'appelle la mère des sciences, parce que c'est la science la plus importante. Et à ce titre, je vais citer quelques paroles de ulama qui parlent au sujet de la science de la croyance pour dire l'immense importance de la science de la croyance et sa priorité. Et un savant, il dit, nous ne pouvons pas rester silencieux à propos de la croyance tant qu'il y a ceux qui égarent les gens en attribuant une direction et un lieu et de la corporalité à Allah. C'est-à-dire que, à partir du moment où on sait qu'il y a des tendances en islam, des courants en islam, qui sont pas dans le dogme sunnite classique, alors l'enseignement de la croyance devient une grande priorité, encore plus qu'avant. Parce que sinon les gens ils vont s'égarer. Une autre parole où il dit, il n'y a pas d'acte acceptable avec une aqida corrompue. C'est ce que je dis tout à l'heure quand je parle de la fondation sur laquelle on va bâtir sa vie d'adorateur. Si la croyance est mauvaise, en fait, comment voulez-vous que les actes ils soient bons? Étant donné que peut-être que tu te trompes, mon frère, de destinataire. Peut-être. C'est pas impossible. L'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, le grand savant de l'islam, surnommé la preuve de l'islam, il dit, le culte n'est pas valide, c'est-à-dire la pratique du culte n'est pas valide, à moins que l'on connaisse celui qui doit être adoré. C'est très important. Et l'imam ibn al-Jawzi, il dit dans un de ses livres où il réfute tout un courant anthropomorphiste qui était tombé dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire l'anthropomorphisme, c'est-à-dire attribuer un corps à Dieu, en disant Dieu a une main, Dieu a un pied, Dieu a un visage, mais on ne sait pas comment il est ce visage. D'accord? Ça, c'est tout un courant, comme ça, égaré en islam, qui se trompe, en fait, qui fait fausse route, et qui dit, voilà, Dieu il est au ciel, Dieu il est au-dessus du ciel, Dieu monte, Dieu descend. C'est-à-dire, il lise les versets. Ambigu et les ahadith ambigus de manière littérale, c'est pour ça que c'est des littéralistes. Or, c'est pas ça qu'il faut faire, et aucun savant de l'islam n'a fait ça, à part une petite poignée qui a été réfutée. Imam Ibn al-Jawzi, il dit, celui qui croit que Allah est au-dessus du ciel, ou bien est au ciel, il dit en vérité, il n'aura jamais vraiment adoré Allah. D'accord? Parce que le propre de la croyance musulmane, c'est ce qui la caractérise en priorité, c'est quoi? C'est l'absolue transcendance de Dieu. C'est-à-dire, at-tanzih. At-tanzih, c'est la marque de l'islam, la transcendance de Dieu. Dieu, il transcende toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans ses actes, unique dans ses attributs, unique dans son essence. C'est très important à se rappeler. Très important à se rappeler. Parce que si on ne fait pas attention à ça, on va commencer directement par quoi? Par s'inscrire dans un institut, directement, fait quoi? Moi, je vais apprendre le Coran. Je vais apprendre le Coran. Direct, moi je veux quoi? Lire avec les règles de Tajwid. Directement, alors que tu ne sais même pas déjà qui est en train de t'enseigner. Et comme si on vivait dans le monde des bisounours. On vit dans le monde des enfants. C'est-à-dire, vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas parce que quelqu'un parle d'islam qu'il a raison. C'est pas parce que quelqu'un a une grande barbe. C'est pas les beaux sourires. Vous savez, sur YouTube, on voit des gens, des prédicateurs ou bien des imams, ou quoi, ils font un beau sourire. C'est des sourires charmeurs. Et ils parlent de la religion, Zama. C'est cool, c'est sympa. Regardez, moi, je suis dire, avenant. Mais ce n'est pas les sourires qui sont le critère distinctif entre le vrai et le faux. Ce n'est pas les yeux qui pétillent sur YouTube avec la belle caméra, etc. Ça, c'est quoi, ça? Ce n'est pas un argument, ça. Ce n'est pas la maîtrise de la langue arabe. Quelqu'un qui parle bien la langue arabe, les gens sont impressionnés. Ils disent, waouh, ça doit être tout ce qu'il va dire derrière. Ça, c'est la vérité. Or, non, ce n'est pas la vérité. Quand bien même tu serais un très bon arabophone, un bon bilingue, un bon trilingue. Ni la psalmodie du Coran. Certains, ils entendent quelqu'un psalmodier le Coran, ils sont touchés. D'accord, il a touché ton cœur, mais ton cerveau, laisse-le allumer. C'est pas parce que il a touché ton cœur par la parole d'Allah, tu as été ému, tu respectes la sacralité de la parole d'Allah, que c'est-à-dire tu vas éteindre ton cerveau. Non. Comme une fois, certains, ils ont avancé un argument à Sidona Ali en invoquant un verset. Il leur a dit, vous avez dit une parole de vrai pour défendre le faux. D'accord? Le verset, il est vrai. Mais ce que tu dis toi après, peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Donc je garde ma raison allumée et je critique dans mon esprit pour savoir ce que j'entends. Il faut pas tout gober, pas tout gober. Même ce que je dis là ce soir, faut pas tout gober. D'accord, on vérifie les paroles que j'ai dites, on enregistre, on regarde. Ah ouais, d'accord. La croyance c'est quoi? La aqida. Ah ouais, je n'avais jamais entendu. D'accord, mais on va voir. D'accord. Et c'est ni, j'ai dit, ni la langue arabe, ni la psalmodie du Coran. Vous savez, les chiites, ils ont des très beaux récitateurs du Coran, des belles récitations. Et ils sont animés par une sorte de transe dans la récitation du Coran. C'est beau, etc. Et alors, est-ce que pour ça, pour autant, ils sont bien guidés? Non. C'est pas ta qualité de psalmodie du Coran ou de ta maîtrise de la grammaire arabe que tu es dans le vrai ou dans le faux. La langue arabe, c'est un outil. Hein. Et c'est pas non plus les habits, ni la barbe, ni la imama autour de la tête, ni le nombre de vues sur YouTube. Parce que malheureusement, on est dans une époque où, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est que quand on voit quelqu'un, il est sur YouTube, il a, je sais pas, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, et il fait 100 000 vues, ça donne du crédit à ce qu'il dit. Mais il faut contextualiser plein de choses. Déjà, ceux qui marchent le mieux, ce sont les premiers qui ont commencé. D'accord? C'est par l'ancienneté que on a du succès sur YouTube. Certains aujourd'hui qui ont un grand succès, s'ils étaient amenés à recommencer depuis le début, ils disparaîtraient aussitôt. Parce que voilà, c'est par la primauté qu'ils ont eu cet avantage-là. Ensuite, il y a un effet comme ça, un effet de psychologie des foules, c'est que quand on voit que beaucoup de gens se diriger vers quelque part, ben on se dit ça doit être bien. C'est-à-dire on fait confiance à l'intelligence collective, on dit sûrement tout le monde est parti par là, sûrement c'est bien, sinon tout le monde n'est pas égaré quand même. Mais en vérité, peut-être c'est une bonne réflexion, mais il faut toujours garder son esprit critique ouvert. Ensuite, quand on veut s'inscrire quelque part, parce que des instituts, il y en a, ils poussent comme des champignons. Il y en a des centaines, voire des milliers en France maintenant. Que ce soit des instituts virtuels ou des instituts physiques, il y en a des centaines et des milliers. Chaque jour. Quand on trouve un institut, moi je préfère donner la méthode. Je ne veux pas vous faire tout de suite une liste de où est-ce qu'on apprend sa religion et comment. C'est-à-dire où tel institut, tel institut, tel institut, ils sont bien et celui-là il est mauvais, 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 mauvais. Non, non. Pas besoin de faire une liste. C'est mieux d'expliquer les choses. Ensuite, chacun il a la méthode pour aller vérifier est-ce qu'un institut il est bon ou il est mauvais. Quand on trouve un institut ou un cheikh ou un imam ou une mosquée ou quelque chose, une source d'enseignement, une source d'information, c'est pas impoli de demander à cet institut, à cet imam, à ce cheikh, à cette mosquée, quel est le programme enseigné? Et quelle est la croyance enseignée? Il n'y a pas de oui, mais ça ne se fait pas, il va se vexer. Ou bien si vous voyez que la personne se vexe, bah ça ne va pas. Alors dès le début, ça ne va pas. Alors tu n'as pas à te vexer. Parce que c'est de la religion dont il s'agit et c'est de ton enfer et de ton paradis dont il s'agit. Ce n'est pas une blague. Je ne me suis pas inscrit dans un club de foot et il n'y a pas de conséquences. Donc je demande. Quel est le programme? Et je demande aux gens autour de moi, les gens qui connaissent, est-ce que c'est un programme? Si je ne connais pas les livres, je fais des recherches. Comme si vous étiez atteint d'une allergie, je sais pas, à l'arachide. Quand vous allez regarder les ingrédients dans le magasin, dans tel produit, vous allez regarder les ingrédients. Ça va vous provoquer une allergie, ça va vous bloquer la gorge, votre respiration. Donc vous allez regarder les ingrédients un à un. Un à un, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que contient ce produit? Parce que vous craignez pour votre vie. Eh bien, on doit craindre encore plus pour notre religion. C'est-à-dire que je vois un institut, un enseignant, je retourne la boîte de l'enseignant, je regarde les ingrédients. Vas-y, dis-moi qu'est-ce que contient la boîte. Et je me méfie si je suis allergique. On est allergique, nous, au courant égaré. Donc, celui à qui on va demander le programme, la croyance qui est enseignée, le madhhab qui est enseigné, quelle école tu enseignes? L'école malikite, l'école hanafite, l'école shafi'ite, l'école hanbalite, quelle est l'école? Dis-nous, et quelle est la croyance? Celui qui va commencer, comme ils disent les jeunes, il va commencer à parler chinois, ou celui qui va, il va être flou sur le sujet de la croyance, c'est déjà une grande alarme. Une grande alarme qui s'allume. Parce que normalement, il n'y a pas à être flou. Il n'y a pas à être flou. La croyance, c'est la base de la religion musulmane. Regardez l'imam Ibn Ashir, le grand savant du Maghreb, qui a écrit la très célèbre poésie qui contient l'ensemble, on va dire, le résumé de toute la croyance musulmane, de toute la jurisprudence musulmane et de toute la purification de l'âme en islam, en 313 vers. Il commence dès le début sa poésie. C'est-à-dire que c'est une poésie à apprendre par cœur et à mémoriser et lire les commentaires, apprendre des commentaires pour pratiquer sa religion et croire correctement. Il commence, il dit, selon la croyance de l'imam al-Ash'ari, direct, selon le madhhab de l'imam Malik, ou fiqh Malik, il dit, et selon le cheminement de l'imam al-Junayd. Comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas de. On va utiliser la parole de l'auteur contre l'auteur. Comme certains y font. Certains y font ça. Ils utilisent Ibn Ashir, le poème d'Ibn Ashir, et ils enseignent que la partie fiqh, que la pratique. Comment tu pratiques ta religion, les ablutions, la prière, Ramadan, etc. Et la partie croyance, ils ne l'enseignent pas. Ça, c'est une méthode malhonnête, intellectuellement. Malhonnête. C'est-à-dire, de l'auteur, je prends que ce que j'ai envie. Mais si l'auteur, il est égaré dans la croyance, pourquoi il serait bien guidé dans la pratique? Il est égaré, il n'a rien compris, alors on prend pas, on prend ou on prend pas. Donc il y a tout un courant comme ça. C'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous, il éveille son esprit critique, et il ne se sent pas gêné, et il ne doit pas être intimidé. Voilà, ça le mot que je cherchais, il ne doit pas se sentir intimidé. Si on lui pose des questions, parce que certains, pour contourner le problème et esquiver le sujet de la croyance, etc., il va répondre un peu de manière autoritaire. Et certaines personnes débutantes, ils sont intimidées, ils vont dire, ouais, peut-être je l'ai vexé, ou peut-être je l'ai gêné, j'ai gêné le cheikh. Y a pas de cheikh déjà. Qui t'a dit que c'est un cheikh déjà? Pour commencer déjà. Et lui, il se fait appeler cheikh, ses fans, ils l'appellent cheikh, mais peut-être, moi, c'est pas un cheikh pour moi. On va voir. Ben alors, pour l'instant, t'es rien. T'es un frère, t'es une sœur, dis-moi, quelle est la croyance enseignée? Y a pas de problème. Et méfiez-vous également de quoi? Les soi-disant méthodes modernes inventées. Parce que l'islam, il n'est pas né au 19e siècle, ni au 18e, ni au 17e. On a un héritage de 15 siècles de patrimoine scientifique musulman. Et la manière dont on apprend la croyance, la pratique de sa religion et toutes les autres sciences, même le Coran, il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Des méthodes qui ont fait leurs preuves, des méthodes qui sont. Comment dire, elles ont été approuvées, elles ont été vérifiées. Et certains jeunes, ils se lancent. Il a étudié un petit peu, parti en Égypte, il a étudié 2 ans en Égypte, il est parti en Arabie Saoudite, il a étudié n'importe où, il revient, khalas, il ouvre son institut et il fait quoi? Nouvelle méthode pour enseigner la croyance. Parce que si on utilise une nouvelle méthode, elle n'est pas vérifiée et sécurisée, sa méthode à lui. Alors dans sa méthode à lui, il peut très bien choisir ce qu'il va dire, choisir ce qu'il ne va pas dire. Donc il va vous faire quoi? Il va vous faire la matière de la croyance et il va pas du tout rentrer dans les sujets qui font polémique. Or, c'est très important les sujets qui font polémique. C'est à ça qu'on distingue le vrai du faux. Donc il va dire quoi? Voilà les grands sujets, croire en Dieu, l'enfer, le paradis, les anges, etc. et tout. Et une fois que les personnes sont enregistrées, elles se sont liées d'amitié, même d'amour pour leur cheikh, Au bout de la deuxième année, de la troisième année, là, il va dire, voilà, on va commencer un petit peu à rentrer dans les détails de la croyance. Et là, on va voir, en fait, une croyance où, voilà, où Dieu, il monte, il descend, Dieu, il a une main, Dieu, on ne sait pas comment elle est cette main, etc. Voilà, on va revenir dans l'anthropomorphisme. Parce qu'il a utilisé une nouvelle méthode, une méthode de ruse, en fait. C'est un problème, c'est un problème. Mieux vaut rester sur les choses acquises et les fondamentaux, les anciennes méthodes, les anciens livres. À la Aqida, on sait comment ça s'enseigne, on sait comment on apprend la Aqida, on sait très bien comment on apprend une école en islam, les quatre écoles, et chaque école a là ses livres de référence, et dans l'ordre également, on n'a pas besoin des nouvelles méthodes. La nouvelle méthode, c'est un danger. D'accord ? Non, je dis ça parce que j'en ai vu, en fait. J'en ai vu plusieurs. Soi-disant, et des gens viennent nous demandent, regardez, est-ce que cet institut-là, il est bien ? Parce que, regardez, dans la croyance, regarde, il n'y a pas rien de problématique. On dit, bah, on ne connaît pas cette méthode, nous. Pourquoi il utilise ce livre? D'accord? Il n'y a pas à utiliser ce livre, normalement. Pourquoi il utilise ce livre? C'est un nouveau livre. Certains, tellement, regardez les, comment ils sont rusés. Ils utilisent les livres des sunnites pour contredire les sunnites. Comme ceux qui vont enseigner, par exemple, il te dit, en première année, on étudie la croyance. Quel livre? Aqida Tahawiyya. Et Aqida Tahawiyya, c'est-à-dire, c'est un livre de croyance qui a été écrit dans les premiers siècles de l'islam, par l'imam Tahawi, qui fait partie du Salaf, c'est-à-dire c'est un livre très sécurisé et très fort en légitimité, d'accord ? Mais il utilise la Aqida Tahawiya avec un commentaire wahhabi ou la salafi ou je ne sais pas quoi, et il contredit l'imam Tahawi dans ce qu'il dit. Donc c'est malhonnête ça en fait, c'est très malhonnête. Ou bien par exemple, ceux qui vont étudier, ils disent on va étudier la Aqida, et pour, comme livre de référence, on va étudier quoi ? La Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Depuis quand on apprend à l'aqida avec la risala? Qu'est-ce que tu racontes? La risala, c'est un livre de fiqh, c'est pas un livre de aqida. Pourquoi? Parce que l'imam Ibn Abi Zayd, dans l'introduction, il fait une petite introduction de aqida. Ça dure une page. Mais tout le reste du livre, qui fait des centaines de pages, c'est que du fiqh. Et eux, ils veulent utiliser ça parce que dans l'introduction de Ibn Abi Zayd, dans la risala, il y a un passage qui est ambigu. Donc ils vont utiliser cette ambiguïté pour défendre leur croyance. Tout ça, c'est des ruses. Et on est envahi de ça. On est envahi de ça. Je fais une petite parenthèse pour parler des courants rapidement, d'accord ? J'ai évoqué le mot wahhabi, j'ai évoqué le mot salafi. Très important, parce que les gens qui écoutent cette room, ils sont peut-être soit débutants, soit ils sont partisans, par exemple, du salafisme. C'est pas impossible, c'est pas un crime hein, de suivre le courant salafi ou le courant wahhabi. C'est pas un crime. C'est une erreur, mais c'est pas un crime, parce que celui qui commence par ça, ben, il ne sait pas que c'est bien ou c'est pas bien, donc il prend ce qu'on lui dit. Et si je parle de ces courants-là, c'est les courants les plus importants en France, d'accord, même dans le monde. D'accord, les grands courants connus qui ont leur influence, c'est le courant wahhabi, salafi, c'est pareil, en fait, wahhabi, salafi, aujourd'hui, ça fait référence à la même chose, à la même vérité, même si historiquement, c'est pas exactement la même chose, mais aujourd'hui, quand on dit wahhabisme ou bien salafisme, c'est la même chose. Donc, c'est un des courants les plus importants. Et on a aussi leur contraire, l'autre côté de la médaille. C'est le courant qu'on appelle Ahbash. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce que certains, quand tu commences à parler un peu de wahhabisme, tout de suite, ils te taxent de Ahbash. Ils disent, toi, t'es un Ahbash, toi. C'est pour ça que tu critiques les salafis. Tu nous critiques parce que t'es un Ahbash. Alors, nous, on n'est ni Ahbash, ni wahhabi, ni salafi. Rien de tout ça. Notre méthode, c'est la méthode qui a été enseignée à l'Azhar depuis plus d'un millénaire, qui est enseignée à l'Qadawiyyin à Fès, au Maroc, université millénaire, et Zaytouna, université millénaire. D'accord ? Ces trois grandes références, c'est un repère dans l'esprit du musulman aujourd'hui. Il doit avoir à l'esprit comment ont été formés les savants de notre communauté, comment ils ont été formés, par quels instituts sont passés. Beaucoup de ulama sont passés par l'Azhar en Égypte. Beaucoup de ulama sont passés par le Qarawiyyin et sont passés par Zaytouna. Donc c'est un repère quand même. Tout le monde prétend avoir la vérité. Tout le monde prétend avoir la vérité. C'est nous le groupe sauvé. C'est nous les sunnites. Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est nous. Et le groupe en face, il dit non, c'est pas vous, c'est nous. D'accord. Soit. Eh bien, interrogeons l'histoire. Très important l'histoire. Parce que c'est un juge neutre. Que dit l'histoire? Qu'est-ce qui est enseigné depuis plus de 1000 ans au sein de la communauté musulmane? Qui sont nos références? Qui sont nos références? C'est très important cette question. Les musulmans d'aujourd'hui ne connaissent pas leurs références. On demande à n'importe qui, dans une mosquée, la plupart, hein, c'est un cas général, Toi, tu es de quelle origine? Il va te dire, moi, je suis mauritanien. Lui va te dire, toi, je suis algérien. Lui, toi, tu es marocain. Toi, tu es tunisien. Il dit, cite-moi, toi, tu es algérien, cite-moi. Allez, 5. Je dis même pas 10. Cite-moi, 5 savants algériens. Il va commencer à bloquer. Il va dire Ibn Badis direct. Il va bloquer. 2, 3. Comme si l'Algérie, il n'y a pas de ulama en fait. Mais si je lui dis, cite-moi n'importe quel savant, vas-y, on enlève les nationalités et les origines, dites n'importe quel savant. Tu vas voir que vont revenir des savants, chouyours, prédicateurs, je n'ai même pas envie de les appeler savants, Wahhabi, Ibn al-Uthaymin, Al-Fawzan, Ibn Baz, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, etc., etc., etc. Comme si c'est ça nos références. Or, ce ne sont pas nos références. Jamais ce n'a été les références en islam. Jamais, jamais, au grand jamais. Ibn Taymiyyah, il n'a jamais été une grande référence en islam. À son époque, il n'est devenu une référence que dans le monde moderne. À l'époque, Ibn Taymiyyah, c'est un savant normal. D'accord? Normal, avec même des dérapages dans la croyance, où il a été réfuté par ses contemporains, etc. Mais c'est un savant. C'est très important de dire ça. Pour dire qui sont nos références. Quand on cite, j'ai posé une fois une question à un jeune qui voulait apprendre la religion, on parlait de Cheikh al-Islam. Je lui dis, tu sais qui est Cheikh al-Islam? Bah, ce qui vient à la tête de tout le monde, c'est quoi? C'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais Ibn Taymiyyah, c'est pas Cheikh al-Islam, le Cheikh al-Islam. C'est un parmi tous. D'accord? Il y en a plein. C'est un surnom qu'on donne à quelqu'un qui a atteint un très haut niveau de science. On peut le surnommer comme ça. Même, il n'y a pas de. C'est pas mal de le surnommer comme ça. Ibn Hajar al-Asqalani, le grand savant du hadith, il a appelé Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam. C'est pas un problème. Mais par contre, c'est pas le vrai. Il y en a un vrai. Si on le cite, personne n'est au courant. Personne ne connaît son nom. Parce qu'on ne connaît pas nos références. On ne connaît pas nos références. On croit que les références, c'est ce qu'on nous a bourré la tête avec la propagande. D'accord? Tu rentres dans une librairie où tu allumes les chaînes satellitaires, on te bourre la tête d'une propagande. Or, ce n'est pas du tout la vérité. Revenez, revenez, revenez aux sources. Revenez à l'histoire de l'islam. Revenez aux instituts millénaires. Très important qu'ils soient millénaires. Pas ouverts depuis 50 ans, 60 ans. N'importe qui peut ouvrir un institut depuis 40, 50 ans. Même depuis 200 ans, si tu veux. Ça fait pas le poids. Donc, j'avais dit, c'est pas impoli de demander la croyance et le programme. Celui qui est flou, c'est déjà une alerte. On se méfie des méthodes modernes, parce que la méthode moderne, elle permet de faire rentrer tout et son contraire parmi les croyances. Et il est important de s'assurer de l'ouvrage. D'accord? On s'assure de l'ouvrage et on s'assure de la méthode. Dans la tradition musulmane, la manière dont on apprend les sciences, c'est très. Les savants musulmans, alhamdoulilah, Allah Ta'ala, il a honoré la communauté musulmane par des grandes personnalités, vraiment des gens, vraiment des fines lames au niveau de l'intelligence, des fines lames, des gens très intelligents qui ont tout décortiqué et ils ont tout analysé correctement. À ce titre, les savants, la plupart du temps, quand ils évoquent une science dans l'introduction de l'enseignement de cette science, ils font une liste de 10 points. C'est-à-dire, ils disent que chaque science, elle est caractérisée par 10 choses. Chaque science, n'importe laquelle, que ce soit la science du Coran, la science de la pratique de la pratique de sa religion, al-fiqh, la science de la croyance, la science du hadith, toutes les sciences, elles ont 10 points pour les caractériser. D'accord? Notamment, je les cite dans l'ordre rapidement, la définition de la science. Quelle est sa définition? Quel est le sujet qu'elle traite? Quel est le fruit de la science? La place de cette science vis-à-vis des autres sciences? Et tout ça, je l'ai déjà évoqué un petit peu en amont. J'ai déjà répondu à tout ça concernant la science de la croyance. Donc j'ai dit la place de cette science par rapport aux autres, les mérites de cette science, et un point qui est très important. Qui sont les premiers à avoir écrit un épître ou un livre sur cette science? Ensuite, les noms différents que porte la science, d'où est tirée cette science, le jugement du législateur de Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de cette science, et les points, en général, les points qu'elle aborde, cette science. C'est ça les 10 points. C'est valable pour toutes les sciences en islam. 10 points. Quand ils sont traités dans l'introduction, c'est-à-dire on a une bonne idée de ce qu'on est en train d'étudier. une idée suffisamment précise de ce qu'on est en train d'étudier. C'est très important. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, parmi les nouvelles méthodes, et bon, ils ne vont pas utiliser cette méthode-là, les nouveaux instituts, etc. Ils ne vont pas utiliser cette méthode-là. Cette méthode-là, elle est tellement claire, tellement précise, qu'elle, en vérité, elle est un filtre. Elle est un filtre. Parce que directement, on sait qui est qui. Les camps sont révélés. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de croyances cachées, etc. Parce que c'est clair. Le sixième point, c'est quoi? Les premiers à avoir écrit dans la science en question. Donc, si on parle, par exemple, dans Al-Aqida, on a dit, c'est la mère des sciences, la plus importante des sciences. Vous voyez, on répond déjà à plusieurs questions. La définition, c'est quoi? Al-Aqida, la science qui traite de la croyance, ce en quoi on doit croire. Le sujet, c'est quoi le sujet de la science de la croyance? Allah, en premier, ensuite les prophètes, ensuite l'au-delà. Le fruit de cette science, on peut répondre à chaque question qui est évoquée dans les 10 points. Et une science, on juge la valeur d'une science à la lumière du sujet qu'elle traite. D'accord? C'est-à-dire, une science qui traiterait, je sais pas, de la cuisine, bah, sa valeur, elle est proportionnelle à la valeur que ça a la cuisine dans la vie des hommes. D'accord? Donc, on juge une science vis-à-vis du sujet qu'elle traite. La aqida, elle traite quel sujet? Elle traite le sujet de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à ce titre, c'est la meilleure des sciences. Parce que directement, elle parle de Allah ta'ala, elle s'occupe de nous expliquer qui est Allah. Donc, à ce titre, c'est la meilleure des sciences. C'est pour ça que je l'ai appelée, et ça répond à la question numéro 7, le nom de cette science. Elle s'appelle Al-Aqida, Al-Tawhid, Ilm al-Kalam, Fiqh al-Akbar, le grand Fiqh al-Akbar. Elle a différents noms, et surnommée la mère des sciences. D'accord? On répond à ces questions-là. Et quand on va dire qui est le premier à avoir écrit dans cette science, eh bien, celui qui va commencer à répondre à cette question directement, les camps sont clairs. D'accord? On va dire, voilà, par exemple, je sais pas, l'imam Abu Hanifa, c'est un des premiers à avoir écrit sur la science de la croyance. L'imam Tahawi, par exemple. L'imam Abu Hassan al-Ash'ari, l'imam al-Maturidi, par exemple. C'est eux les premiers qui ont organisé cette science. Quand on dit ils l'ont organisé, ils l'ont pas inventé. D'accord? Certains, ils font une confusion. Ils pensent que c'est une erreur chronologique en disant, par exemple, les quatre écoles, l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Certains vont dire, ouais, mais l'imam, le prophète, ça ressemble, il n'est pas malikite. Le prophète, ça ressemble, il n'est pas hanafite. Bah oui, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. C'est-à-dire que l'imam Malik, il a été, à son époque, la personne la plus habile, la plus apte, la plus légitime, la plus reconnue, à consigner un contenu prophétique. Le prophète, il a laissé un héritage. Un héritage en termes de croyance, un héritage en termes de science, de la pratique, comment il pratique son adoration, un héritage de ses états spirituels. C'est un héritage qu'il a laissé. Certains savants, à certaines époques, selon un contexte, ils ont fait quoi? Ils ont consigné un contenu prophétique. Donc, les savants de la croyance, ils ont consigné, ils ont organisé un contenu qui existe déjà à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le contenu, il est existant à l'époque du prophète, mais il n'a pas de nom. Il ne s'appelle pas, science de la croyance, d'accord? Et son fondateur, il n'est pas là encore. Parce que c'est à une époque où les musulmans, ils commencent un petit peu à s'égarer, parce qu'ils rencontrent des philosophies, la philosophie grecque, romaine, les différentes religions, etc., que la croyance de l'islam, elle doit être réinterrogée pour voir en vérité quel est le cœur de l'islam. Quel est le cœur de l'islam? Tawhid, c'est quoi de l'islam? Donc les savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit quand ils voient qu'il y a un danger, ils font quoi? Ils protègent le contenu prophétique en organisant, en le consignant dans une science. C'est ce qu'ont fait les savants de la croyance. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les savants de la récitation. Tout le monde, quand il récite le Coran, il récite selon une méthode, d'accord? Selon l'imam Warsh, selon l'imam Hafs, selon l'imam Ibn Kathir, d'accord, Qaloun, ça c'est quoi? Ils sont arrivés après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'ils ont inventé une lecture? Non, ils ont repris une lecture que le prophète il avait, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont consigné dans une science, en disant, quand tu lis comme ça, et donc il faut continuer à lire comme ça, tel mot, tel caractère, jusqu'au bout. Ça, c'est quoi? C'est une méthode qu'avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle a porté un nom, le nom de celui qui a fait ça, qui a dit, la limite, elle est là. Et bien, pareil pour la croyance. Les savants de la croyance, ils ont dit, c'est pas parce qu'à partir du moment où tu prétends que tu crois en Allah, khalas, tout est ouvert maintenant. J'ai dit, Allah, je crois en Allah, maintenant je peux croire en n'importe quoi. Non, non, tu as des limites. Tu ne vas pas dire, je crois en Dieu et je crois en la Trinité en même temps. Qu'est-ce que tu sors de la religion. Donc, il faut des limites. Donc Dieu, en tant que Dieu unique, ça, tu restes dans la limite. Et à chaque fois que tu vas te trouver aux abords d'une limite, les savants, ils ont posé un piquet, des garde-fous. D'accord ? C'est ça qui détermine la science de la croyance. Et donc, voilà un petit peu pour les petits outils que je peux modestement vous transmettre sur les méthodes pour apprendre sa religion. Premièrement, on fait quoi ? On distingue les sciences. On regarde déjà qu'est-ce que je vais apprendre. La priorité à la aqida. Ensuite, c'est-à-dire ilmul hal, c'est-à-dire la science de mon état. Quel est mon état actuellement ? Je suis quoi ? Je m'apprête à faire le hajj. Si je m'apprête à faire le hajj, mon obligation, c'est d'apprendre la science du hajj. Si je ne m'apprête pas à faire le hajj, ce n'est pas mon obligation de l'apprendre tout de suite. D'accord ? Moi, mon obligation, c'est quoi qui arrive là ? C'est la prière. Prière de l'Aïcha pour ceux qui n'ont pas encore prié, pas prière de l'Fajr qui arrive pour ceux qui ont déjà prié l'Aïcha. Donc mon obligation, elle est là. Donc c'est ça mon obligation. Je dois apprendre ça. Donc je fais la part des choses dans l'ordre de priorité à la aqida, ensuite mes obligations dans la pratique, et j'apprends en même temps. On n'est pas obligé d'apprendre les unes après les autres. On essaie d'être régulier. On se méfie. On n'écoute pas n'importe quoi. C'est pas parce que tu rentres dans une librairie. Tu rentres dans une librairie et tu crois que tous les livres ils sont bons. Une librairie musulmane, tous les livres ne sont pas bons. Tu prends ne serait-ce que la distinction sunnite-chiite. Voilà. Tu ne peux pas être les deux. Tu peux être et sunnite et chiite. D'accord ? Donc c'est bien la preuve que c'est pas parce que tu vois un livre écrit en arabe, c'est écrit islam, ou bien c'est écrit, je ne sais pas, n'importe quel mot en arabe ou en lien avec l'islam, ça veut dire que c'est bon. Non. Je regarde qui est l'auteur, je regarde. Ça, c'est valable dans toutes les sciences, mais on dirait qu'en islam, ça ne nous concerne pas l'éveil. Ensuite, je pose la question, je demande tel institut, etc. On dit voilà, c'est ça qui est enseigné. Tel programme, tel livre, telle école de croyance, tel madhab. Dès lors qu'il y a un flou sur cette question, il y a un grand problème. Il y a un loup. Ce n'est pas normal. La chose dont on est le plus fier, en tant que croyant, sa croyance. La croyance sunnite, c'est notre plus grande fierté. La croyance de l'imam Abu Hassan al-Ash'ari et la croyance de l'imam al-Maturidi, la grande fierté des musulmans, notre honneur. Et on te dit, quel est ton honneur ? Tu dis, non, je ne sais pas, c'est quoi, je zigzague. Non, nous, on n'apprend pas. Moi, c'est la croyance en islam. Nous, on est tous musulmans. Ben oui, on est tous musulmans. Ce n'est pas le problème. Il faut bien des méthodes. Je vais apprendre le Coran, quelle lecture ? Hafs, Warsh, je fais comment ? Eh ben, tu vas me dire la méthode. Bah oui, il n'y a pas de honte alors à parler de croyance. Mais aujourd'hui, certains qui veulent cacher leur croyance, ils cachent par des ruses, des nouvelles méthodes, et à la fin, on se retrouve avec des instituts qui ont du succès alors qu'ils ne devraient pas en avoir. C'est véridique, véridique. Ça s'est déjà passé dans l'histoire, dans des états musulmans, où celui qui prend la parole pour parler de la religion, il est jugé à l'aune de ce qu'il dit. Si ce qu'il dit, c'est conforme à la croyance sunnite, on peut laisser parler, et encore. Et si ce n'est pas conforme, tu descends du minbar, mon frère. Et soit il peut être jugé, peut même être incarcéré. Comme vous savez, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que Allah fasse miséricorde, il est parti en prison, il a été condamné par les quatre mouftis, les mouftis des quatre écoles, ils l'ont jugé, pour certaines positions qu'il avait. Parce que ce qu'il disait, ce n'était pas conforme au dogme sunnite. Et comme j'ai cité, là je vous fais juste un petit résumé, on demande la question, il ne faut pas qu'il y ait de flou, on regarde la méthode, il ne faut pas qu'elle soit trop nouvelle, ou si elle est nouvelle, tant qu'elle est nouvelle, mais qu'elle est claire, elle est transparente, il n'y a pas de problème, pour savoir qui fait quoi. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, celui qui veut enseigner la aqida salafia, tu vois, il n'a qu'à l'enseigner, tu vois, mais qu'il le dise, pas de problème. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. Quelqu'un, il veut ouvrir un institut chiite, il dit, nous, on va vous apprendre le chiisme avec nos grands savants, nos grandes méthodes, nos livres à nous. Pas de problème, tant que tu le dis, il n'y a pas de problème. Tu crois ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu crois ce que tu veux. Celui qui dit, moi, je suis salafi, wahhabi, salafi, admettons. Je veux enseigner à l'aqida salafia, tu vois. Vas-y, pas de problème, mon frère. Tu fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas la police de la pensée ou la police tout court. Tu fais ce que tu veux. Mais le crime, c'est ceux qui ne disent pas ce qu'ils enseignent. Ils te disent, je vais t'apprendre la croyance sunnite. Tu dis salafi, tu dis non, pas salafi. Moi, Allah nous a nommés musulmans, tous. Et c'est comme s'il joue, en fait. Il joue avec toi. Et c'est pas comme ça, non. Sois fier. Sois fier. Si t'es salafi, sois fier de ton salafisme. Nous, c'est pas ce qu'on enseigne, nous, c'est pas ce qu'on apprend, mais au moins, sois fier, pour qu'au moins, on ait un petit peu de visibilité dans ce marasme. Il faut de la visibilité, il faut de la transparence, il faut de l'honnêteté intellectuelle. C'est ça dont on manque. On manque de gens qui ont une honnêteté intellectuelle. Moi, je suis Maliki Ash'ari, je suis fier, il n'y a pas de problème. Maliki Ash'ari, comme on a dit, ni Wahhabi, ni Ahbash, il n'y a pas de problème. Je te dis ce que j'enseigne, bismillah celui qui veut, il n'y a pas de problème. Et je te prouve historiquement d'où vient cette histoire, cette fiabilité, cette légitimité. C'est-à-dire, c'est pas tombé de nulle part, d'accord? 95% des ulama de toute l'histoire de l'islam, ils sont comme ça. Sunnites selon une des deux écoles, Ash'ari ou bien Maturidi. C'est ça la vérité. C'est qui dit ça? L'imam Soubki dit ça. L'imam Soubki est le grand érudit, le grand savant, surnommé aussi Cheikhoul Islam. Il dit quoi? Il dit quand on dit, quand on évoque, on dit les sunnites, Ahlul Sunna wal Jama'a, ça fait référence à qui? Il dit aux Ash'arites et aux Maturidites. Les grands imams Soubki qui disent ça. Et aujourd'hui, on n'a que des gens qui ne sont pas d'accord avec l'histoire. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et bien, ça donne un pays noyé dans le salafisme, un pays noyé dans le wahhabisme. Et que Allah nous pardonne et Allah nous guide, Inch'Allah. Voilà mes chers amis, mes chers frères et sœurs, pour ce petit rappel de la manière dont on doit apprendre. J'ai cité quelques méthodes. Et pour le où, nous on a un groupe sur Facebook, d'accord? On a un groupe sur Facebook qui est depuis, il a, je ne sais pas quel âge il a maintenant, il a presque 10 ans, on a traité plus de 10 000 questions, on a plus de 25 000 membres, alors que c'est un groupe très spécialisé dans la jurisprudence. Et donc on répond aux questions, on envoie des cours, etc. Donc ça c'est un endroit. Mais on a plein de gens qui travaillent avec nous, des amis, des partenaires, des gens qui sont dans la sincérité, dans la transparence, comme on a dit, dans l'honnêteté intellectuelle. On a le site sunnisme.com, Doctrine Malikite, tous ces sites-là, les chouïours qu'on voit, qu'on publie nous dans notre groupe, Inch'Allah, tout ça, nous, on recommande. Au moins le minimum, soyez transparents. Soyez transparents. Ne vendez pas une chose qui n'est pas conforme à. Ne vendez pas avec un emballage quelque chose d'autre. Et Inch'Allah, ici, sur Clubhouse, Inch'Allah, on va essayer de faire quoi? Des cours de révision et de fiqh selon l'école de l'imam Malik, assez léger, assez régulier, assez léger pour que ça soit digeste et que ça soit sous forme de révision plutôt. D'accord? Une fois qu'on a donné l'information, on la révise légèrement et le fiqh, c'est comme ça. Il faut le réviser, le fiqh. Si on ne le révise pas, on l'oublie. Mais même les versets du Coran, si on ne les révise pas, on les oublie. Donc, Inch'Allah, ou étudier, bismillah, avec nous, vous pouvez. Inch'Allah. Et il y a plein de sites, hein, des instituts en ligne, l'Institut Ash'arit, l'Institut Abu Hanifa, l'Institut Shafiri, on peut en citer plein des instituts maintenant. L'Institut Al-Razali, au Muro, il y a un cheikh spécialiste dans la croyance musulmane. Marhaba bikoum si vous voulez venir nous rejoindre. Et je m'arrête ici pour cette présentation. Si certains veulent prendre la parole ou si Andy, tu veux dire quelque chose?
Déjà, Barakaroufik pour cette présentation qui est claire et limpide. Hein, et je voulais dire que c'était affligeant de voir combien on est perdu dans le brouhaha d'Internet, comment on est dans le flou, alors que notre religion, elle est complètement structurée, elle est claire, et que les grands savants de l'histoire, ils nous ont mis des cordages de sécurité, quoi, des balises sur le chemin. Et il suffit de le savoir, quoi, et les attraper, quoi.
Bien sûr.
Donc, voilà.
En
Qu'Allah te
France,
récompense.
Amine, en France, il n'y a pas de ministère des affaires religieuses, donc tout le monde peut prendre la parole, tout le monde a droit de parler, tu peux dire n'importe quoi. Tu peux dire n'importe quoi, tu peux même dire n'importe quoi au nom de l'islam et que personne ne va te sanctionner. Donc pour peu que tu connaisses les méthodes marketing, d'ailleurs certains ils ont marketé la religion, pour peu que tu aies les méthodes et les connaissances de ce qui fonctionne sur Instagram, sur TikTok, YouTube, etc., tu vas cartonner, même si tu racontes n'importe quoi. Il n'y a pas de ministère des affaires religieuses. C'est ça notre drame, c'est une jungle, une vraie jungle.
Et puis nous, même nous, quoi, enfin, moi la première, c'est vrai que souvent on écoute, eh ben on dit, ah, on aime, alors on suit, mais on cherche pas le. Est-ce que c'est vrai ce qu'on écoute? Est-ce que. De quoi on s'abreuve? Est-ce que c'est la bonne source, quoi?
Il y a deux conseils qu'il faut essayer de suivre. Premier conseil, c'est quoi? La sincérité. Quand on fait on entame un cursus, faut toujours travailler sa sincérité. Toujours, comme on dit, revivifier son intention. C'est-à-dire, pourquoi j'apprends? Pourquoi? Si c'est pour Allah, je me pose toujours la question, il y a Allah, montre-moi la vérité. Celui qui fait ça en vérité, il n'a rien à craindre. Celui qui est sincère et qui implore la sincérité, qui demande à Allah de lui montrer la vérité, il n'a rien à craindre. Même quand bien même il passerait par des courants bizarres, il trouverait des coranistes, il tombe sur des coranistes, etc. Mais à la fin, Allah Ta'ala, parce qu'il est sincère, il va le guider. Il lui fera rencontrer les bonnes personnes, lire les bonnes lectures, etc. Travailler sa sincérité et ne pas faire de culte de la personne. C'est très important. Parce que quand quelqu'un il apprend sa religion, c'est un phénomène tout à fait naturel. Que quand on apprend, c'est pas que la religion, même les sciences, les mathématiques. Je sais pas, quelqu'un il suit un youtubeur très fort en mathématiques, il donne des cours de mathématiques. Parce qu'on voit la personne, on se lie d'affection pour elle. On se lie d'affection pour elle. C'est naturel. Dans toutes les sciences, c'est valable. Même pour son professeur de judo. Et aussi pour la religion. Encore plus pour la religion. Parce qu'il va te parler de Allah, ça va donner vie à ta vie. Ça va alimenter ta spiritualité. Donc tu vas aimer la personne. Malgré ça, il faut toujours garder son esprit critique. C'est pas méchant. Et c'est un phénomène naturel. Il faut se méfier de soi-même. Se méfier de ses certitudes. Et je gobe pas tout ce que j'entends. Tout ce que j'entends. Je regarde, je réfléchis, je vais voir, j'analyse, je critique. D'accord? Ça, c'est la première chose, un grand conseil, c'est quoi? La sincérité. Travaille la sincérité. Ensuite, il y a le frère Elias qui est monté. Il voulait prendre la parole. Alaykoum salam, rahmatoullah.
J'aimerais savoir si j'ai une question par rapport au fait que en islam, on nous dit qu'il faut toujours suivre la majorité car la majorité elle peut pas s'accorder vers l'égarement. Mais dans le cas où si est-ce que c'est la majorité à titre individuel ou la majorité à l'échelle mondiale? Parce que si on prend à titre individuel, la majorité, si on se rend dans une mosquée ou quoi, la majorité pourrait pencher vers l'anthropomorphisme ou vers ce genre de croyances.
Ouais, c'est...
Donc, quand on nous dit suivre la majorité, c'est à l'échelle du monde musulman global, et non ce que nous, on perçoit.
Ouais.
Mais comment distinguer alors la majorité?
ouais. En fait, il y a deux choses. Quand on a parlé, j'ai évoqué le wahhabisme ou le salafisme. C'est pas parce que quelqu'un y répète des arguments d'un cheikh salafi que lui-même il est salafi. D'accord? Parce que on respire l'air ambiant. D'accord? Tu peux pas respirer un autre oxygène que celui qui t'entoure. Donc si tu es dans un environnement où il y a beaucoup de salafisme, tu vas respirer du salafisme. D'accord? Et tu auras des réflexes salafis. Mais ça ne fait pas de toi un salafi. D'accord? Le vrai salafi, le vrai wahhabi, c'est qui? C'est quelqu'un qui sait ce que c'est et qui le revendique et qui en fait la propagande. Sinon, l'autre, il est quoi? Il subit l'influence, c'est-à-dire il est salafisé par l'ambiance, l'ambiance générale. C'est valable pour tous les courants, d'accord? C'est pas que propre au salafisme. Si tu as des amis coranistes, tu vas dans un institut, il n'y a que des coranistes, tu vas dire des arguments coranistes, d'accord? C'est comme ça. Tu vas te retrouver toi-même à critiquer la sunna sans t'en rendre compte, parce que ça va te travailler ce que tu entends. Donc, premièrement, il faut faire la distinction entre quand on parle des gens dans une mosquée. C'est pas tout le monde qui est au courant, d'accord? C'est celui qui est au courant qui vraiment peut porter le nom et l'étiquette, d'accord? Sinon, fait quoi? Ça fait partie de la masse. Les gens en général, ils font partie de la masse. Eux, en général, la masse, elle n'a jamais de courant précis, tu vois. Comme on dit, le madhhab du celui qui suit, c'est le madhhab de son imam, d'accord? Nous, dans la pratique, on fait taqlid, on suit. Et ben, c'est quoi ton école? C'est l'école de ton imam. D'accord? Pourquoi t'as pas les outils et tu n'as pas de courant spécifique? C'est celui de ton imam. Donc, ça dépend de l'ambiance dans laquelle tu es. Ça, c'est premièrement. C'est pas tout le monde qui dit des arguments salafis qui est salafi. D'accord? Ça, c'est un. De deux, quand on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith très célèbre, il dit, ma communauté ne se met jamais en accord sur un égarement. D'accord? C'est-à-dire qu'un savant peut se tromper. Mais le prophète, c'est comme une promesse prophétique. D'ailleurs, ce n'est pas un hadith, il y en a plein des hadiths sur le fait de suivre le groupe majoritaire. Il y en a beaucoup des hadiths. Pour dire, un savant peut se tromper, mais tous les savants ne peuvent pas se tromper. C'est impossible. C'est-à-dire que la umma de Sidna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, elle est quoi ? Ma'souma, elle est infaillible. Un savant, il est faillible, mais pas la communauté elle-même. La communauté, elle est préservée de l'égarement. D'accord ? C'est une promesse du prophète. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, Iblis, il a renoncé à égarer ma communauté par le shirk. Le shirk, ma communauté, elle n'est pas tentée par ça. Elle n'est pas... menacé par le shirk. Et t'as des gens, ils parlent matin, midi et soir du shirk. Oui, le shirk, oui, nanana, ils font ça dans les pays, nanana, shirk, 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 tu vas voter, shirk, shirk, shirk. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté n'est pas, Iblis a renoncé à tenter ma communauté par le shirk. Il ne parle que de ça matin, midi et soir. Donc, faut voir là, premièrement, de qui on parle. On parle des gens qui sont au courant ou bien de la masse. Ensuite, le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, suivez la majorité, suivez le groupe majoritaire. Également, quand on parle de majorité, on parle quoi ? De la majorité des ulama, la majorité des savants aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai cité les trois universités, Al-Azhar, Zaytouna et Al-Qarawiyyin, que pour citer que elles. Pour dire quoi ? C'est eux la majorité, c'est eux les ulama, c'est eux qui ont formé la majorité des savants de l'islam, c'est eux la majorité. Si eux, ils sont égarés, alors toute la umma est égarée. D'accord ? C'est en ça qu'on parle de majorité. La majorité, elle est ash'arite, indéniablement, ash'arite maturidite, indéniablement. Personne ne peut nier ça, sauf quelqu'un vraiment qui ne connaît rien du tout. Moi, j'ai déjà parlé avec des frères salafis, on débat, etc. Jusqu'à la fin de la discussion. Parce qu'on a rarement l'occasion d'aller jusqu'au bout du débat. On est interrompu, on fait des digressions, etc. Mais une fois, je partis jusqu'au bout du débat avec un frère, une tête pensante du wahhabisme, jusqu'à ce que je lui ai dit d'accord. L'imam Nawawi, il est Ash'ari, ouais. Ibn Hajar al-Asqalani, il est Ash'ari, oui. Al-Qadi Iyad, Al-Subki, Al-Qurtubi, Ibn Kathir, tout ça, ils sont tous Ash'ari. Il me dit, oui. Je dis, ils sont tous égarés, ces gens-là. Il me dit, oui, ils sont égarés. Je dis, ah, d'accord. Et j'ai cité l'autre fois dans notre groupe sur le Facebook, j'ai cité une parole de Albani. Cheikh Albani, il dit ça. En parlant de l'imam Nawawi et Ibn Hajar al-Asqalani, parmi les deux plus grands savants de la science du hadith, des grandes figures de l'islam, il dit, dans la science du hadith, ils sont bons, mais dans la science de la croyance, ils sont égarés. D'accord ? Albani, il dit que Ibn Hajar al-Asqalani, il est égaré dans la croyance. C'est-à-dire que la bactérie critique le mammouth. Et elle dit, tu es égaré. C'est comparer l'incomparable. Ibn Hajar al-Asqalani, le niveau qu'il a en science, la reconnaissance qu'il a de ses pères, même le fait qu'il soit plus ancien, tout simplement, plus proche de la source prophétique, qu'il soit dénigré par quelqu'un de contemporain, c'est vraiment qu'on marche la tête à l'envers. Vraiment.
Excellente, la bactérie critique le mammouth.
Oui, c'est ça. Il faut revenir. Le hadith, il est rapporté par qui ? L'imam Tirmidhi, il est authentifié par Albani. Ou bien il est quoi ? Il est affaibli par Albani. C'est-à-dire, il faut revenir un petit peu aux définitions. Albani, Cheikh Albani, il a quel statut ? Il a quel statut dans les sciences ? Reconnu par qui ? Quel statut ? Il n'a pas un statut qui lui permet d'authentifier. On ne t'a pas autorisé à authentifier. Personne ne t'a rien demandé. Il a authentifié tout seul, comme un grand. Avec toute la science qu'il a. Hein. Je ne dis pas que c'est un ignorant ou quoi. Ce n'est pas ça. C'est juste que faut juste replacer les choses dans le bon ordre. D'accord ? Ibn Hajar al-Asqalani ou même l'imam Tirmidhi, tu ne peux pas dire rapporté par Tirmidhi ou bien rapporté par Abu Daoud et dire authentifié par Albani. Non, ça ne marche pas. Et bien pourtant, ça marche. Dans les livres, dans les librairies, c'est ce qu'on voit. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal.
Donc du coup, la majorité, c'est plus la majorité des savants et non la majorité de ce qu'on peut voir.
C'est la majorité des savants. Et si tu regardes bien, même la majorité des gens, je te dis, la majorité des gens, en vérité, ils ne savent pas. Hein. La majorité des gens, ils héritent de ce que leurs parents ils ont vu, ce qu'ils voient à la mosquée, tu vois. La majorité des gens, ils tombent pas dans l'anthropomorphisme. Mais faut voir aussi où. La majorité où en France, va au bled. Va dans la campagne au bled, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, au Mali. Va voir les gens dans la campagne. Tu demandes à une maman, tu dis, il est où Allah ? On va te dire, A'oudou billah, qu'est-ce que tu me racontes ? C'est quoi cette question ? Tu vois ?
C'est ce que j'allais rajouter, c'est que ça dépend en fait où on vit. Et souvent, on a l'impression que la majorité des gens, c'est ce qu'on a autour de nous. Mmh. Alors qu'en fait, ce qu'on a autour de nous, c'est vraiment un microcosme.
Tout à fait.
Voilà, qui n'est pas un reflecteur
du tout. Bien sûr, bien sûr.
la majorité
Ben oui,
au niveau
prends un billet
matériel,
d'avion.
quoi.
Ben oui, prends un billet d'avion, va en Malaisie, va en Indonésie, va voir l'islam indonésien, l'islam du Bangladesh, du Pakistan. C'est pas que ta petite ville, l'islam. C'est vrai. Hein. C'est pas ton petit entourage proche, même entourage plus étendu. Hein. L'islam, il est vaste. Et même si tu prends la majorité, vas-y, on la prend dans son sens absolu. Et ben alors, il faut prendre deux paramètres, l'histoire et l'espace, la géographie, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps, qui est la majorité? Ben, la majorité, elle est Ash'arite et Maturidite, c'est ça les sunnites. Elle est comme ça la majorité, historiquement, indéniablement. Donc voilà, ben, la majorité c'est celle-là. Voilà, faut la suivre. Que tu la prennes au sens absolu, la majorité, ou que tu la prennes au sens relatif, c'est-à-dire les ulama, ou bien le pays, ou bien le cercle proche, le cercle étendu, dans tous les cas, tu reviens à la même chose.
C'est vrai, ça aussi, qu'on ne connaît pas assez bien l'histoire de notre religion.
C'est important, c'est un guide. C'est un guide l'histoire, c'est un témoin neutre. Parce que tout le monde prétend avoir la vérité. Moi, je te dis, c'est moi Ahl Sunna wal Jama'a, l'autre, tu vas dire, c'est moi Ahl Sunna wal Jama'a. D'accord. Regardons ce que dit l'histoire. D'accord. Ils sortent d'où les savants de l'islam? Les grands savants, ils sortent d'où? Ils sortent de l'Azhar, ils sortent de l'Qarawiyyin. Ils enseignent quoi, le Qarawiyyin? Ils enseignent le salafisme? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils disent que le salafisme, c'est une secte. Alors, c'est triste, mais c'est ça la vérité. Pourquoi vous croyez que. Pourquoi il y a Daesh? D'où il vient Daesh? Daoulat islamiste, je crois que ça vient d'où? Ça vient de nulle part. Bien sûr que c'est ça. Tous les groupes terroristes armés, Daoulat islamiya, Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda, tous c'est des salafis. Tous ils ont la croyance salafi. Ils suivent Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils ont Kitab Tawhid, ils suivent Ibn Taymiyyah, tous. Parce que c'est pas rien. Ce que je dis, c'est pas rien. Comme tu dis, il faut étudier l'histoire. Regarde. Comment était géré l'islam avant? Par l'Empire ottoman. Qui a fait chuter l'Empire ottoman? Comment il a chuté l'Empire ottoman? Quel est le rôle des Saouds? Quel est le rôle de l'Arabie saoudite dans ça? Il faut étudier l'histoire. L'histoire, tu peux l'étudier aussi bien dans les universités françaises, avec des historiens, etc., qui ne sont pas musulmans, comme tu peux l'étudier avec des musulmans dans les universités islamiques, tu verras tu arriveras aux mêmes conclusions. Tu auras des petites différences dans la géopolitique, mais tu arriveras aux mêmes conclusions. D'où vient Saoud? C'est quoi le pacte de Najd entre Mohammed ibn Abdel Wahhab et la famille Saoud? Tout ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a que eux-mêmes qui ne sont pas d'accord. Eux-mêmes, les Wahhabis et Salafis, ne sont pas d'accord avec ça. Sinon, tout le reste de l'humanité, elle est d'accord. Les savants d'Al-Azhar sont d'accord. Tous les savants sont d'accord.
Et ça, c'est aussi le fait que quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Et le fait de voyager aussi, c'est important
Tout à fait.
d'avoir du recul sur, ben, voilà, par exemple, ce qui se passe en France. Ou, c'est vrai que c'est quand on y est dedans, on ne s'en rend pas compte.
Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai dit, en vérité, il faut être tolérant. C'est ça un des mots très importants, c'est la tolérance. Pour dire quoi? Même un frère, il est salafi, il est wahhabi, même à 100%. Il est acharné. En vérité, c'est ton frère en islam. C'est ton frère, c'est ta soeur en islam. Il n'y a pas de problème. On discute. Ça se discute. Et on n'est pas obligé d'être d'accord. La tendance naturelle chez l'homme, c'est quoi? C'est de vouloir convaincre. Jusqu'à l'embrouille. Tu vois, tu t'embrouilles jusqu'à. Non, mais c'est moi mon argument, mais moi je te dis ce que j'avais à dire. Mais tu me crois ou tu me crois pas. Tu n'es pas obligé de me croire, je suis pas obligé de te croire. On peut très bien rester amis ou avoir des relations fraternelles tout en ne croyant pas la même chose. Et pas de problème, je t'en veux pas. Hein, ne m'en veux pas. D'accord? J'ai le droit d'avoir mes convictions, tu as le droit d'avoir les tiennes. Et il faut avoir une certaine tolérance dans le regard de l'autre. Faut pas se braquer. Faut pas se braquer. C'est pour ça que si tu commences trop à te braquer contre le salafisme ou le wahhabisme, tu vas tomber chez les Ahbash. Les Ahbash, ils les rendent tous mécréants. Les Habash, ils disent les salafis, les wahhabis sont tous des kofars. Parce que celui qui dit que Dieu il a une main véritable, khalas, c'est des kafirs. Il ne faut pas tomber dans l'excès. D'accord? Lui, il a dit ça. D'ailleurs, ce n'est pas du kofr, d'ailleurs, parce dans le salafisme, le wahhabisme, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main. Mais ils disent, mais pas comme les mains. Donc ça les sauve. D'accord? Ils restent dans l'islam. Parce qu'ils disent, il a une main. Parce qu'il y a un verset où Allah ta'ala, il parle de yed. Donc eux, ils traduisent littéralement yed main, d'accord? Même si l'imam Abu Hanifa, quand il traduit le Coran de l'arabe vers le perse, il dit le mot yed. Quand on arrive au mot yed, il dit on ne traduit pas. Parce que traduire, c'est trahir. C'est traduire, c'est une interprétation. Donc il dit, oh, le mot yed, tu laisses en arabe. Traduis en perse le reste. Quand tu arrives au verset ambigu, comme le verset qui évoque Al-Wajh, Kullu man alayha fan, le verset qui parle de Al-Wajh, on laisse en arabe. Parce que si tu traduis dans une autre langue, tu vas donner une interprétation. Donc, on laisse Allah Ta'ala, il a dit le wajh, il n'a pas dit le visage. Donc, les salafis, ils disent Allah, il a un visage, mais on ne sait pas comment il est. S'il disait simplement « il a un visage », ça c'est du kufr, unanimement reconnu par tout le monde. Mais ils disent pas ça. Ils disent « il a un visage ». Et ce qui les re-ramène dans le sunnisme, c'est quoi? Ils disent « mais pas comme les humains, pas comme les visages ». Ça c'est bon. Et tant qu'ils restent là, tant qu'ils disent ça, ils sont sur une ligne rouge très dangereuse, mais en tout cas ils ne tombent pas dans le kufr. Les savants sunnites, ils disent pas ça. Les savants sunnites, en général, de toute époque, à part l'époque du salaf, on va dire, ils faisaient ta'wil. Ils disent « al-wajh », ça veut dire « la satisfaction d'Allah ». L'imam al-Bukhari, il fait l'interprétation de l'attribut du sourire, qu'il y a un verset qui dit ça, il dit « il n'y a pas de sourire d'Allah », ça veut dire l'agrément d'Allah. D'accord ? Parce que si tu dis qu'Allah il sourit, donc tu es en train de décrire un humain, en fait. Tu vois. Un dieu qui a une main, un dieu qui a un tibia, un dieu qui a un visage, un dieu qui sourit, un dieu qui court, bah, c'est un humain, en fait. Tu vois. Donc les savants, ils font l'interprétation. Ils disent, parmi tous les sens, dans un verset ambigu, par exemple sur l'istawa, ils disent « l'istawa, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ar-Rahman al-Arshi istawa, ils disent, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc on garde les sens qui permettent la transcendance de Dieu et les sens qui rapprochent d'un sens corporel avec Dieu, on le prend pas. C'est comme ça la méthode des ulama. Donc ils disent donc Dieu, il s'est pas assis sur le siège, il s'est pas assis sur le trône. Parce que qui s'assoit à part des humains? La baleine, elle s'assoit la baleine. L'oiseau, il s'assoit l'oiseau. C'est l'homme qui s'assoit, c'est l'humain. Par définition, c'est l'homme qui s'assoit. Donc si tu dis que Dieu il s'assoit, c'est un problème. Sans parler que c'est pas le verbe asseoir. Istawa, ça veut pas dire s'asseoir. D'accord. Donc les salafis tombent pas dans le kufr. Mais si tu as trop la haine contre ton frère, ta soeur salafi, tu vas tomber dans ça. Tu vas dire oui, mais non, c'est trop. Allah, il a pas de main. Il faut pas tomber dans. Sinon, il dit, il faut de la tolérance. Il faut de la tolérance. Même celui qui croit salafisme, mais doucement, doucement. Parle tranquille. Pas obligé de se radicaliser. Tu vois.
Mais en général, là, ça peut commencer à poser des problèmes. C'est quand on commence à propager, il commence à vouloir propager à tout prix son message qui n'est pas forcément en accord avec.
Bah, tu le laisses, tu vois, chacun il est libre. Hein. Tu sais, nous, en vérité, on s'agite, on remue, on se débat. Mais en vérité, t'inquiète pas, Allah Ta'ala, c'est lui qui guide l'univers, c'est lui qui gère l'univers. Toi, fais ce que t'as à faire. Même si tu vois qu'il cartonne, il a trop de succès, il raconte n'importe quoi, laisse-toi, fais ce que t'as à faire, travaille ta sincérité, travaille ton lien avec Allah, laisse les gens faire ce qu'ils veulent.
D'accord.
Faut pas se... Il y a ce syndrome-là, le syndrome du sauveur de l'humanité, tu vois. Faire attention de pas tomber dans ça, tu vois.
Non, mais est-ce que le fait de ne pas forcément prendre parti, c'est agréer tout cet engouement et le fait de rien dire, c'est aussi le fait de valider.
Non, tu sais, il y a le célèbre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que le croyant, quand il voit quelque chose de négatif, il le combat par sa main. S'il ne peut pas, il le combat par sa langue. S'il ne peut pas, il le combat par son cœur. Et c'est le plus bas degré de la foi. D'accord ? Donc c'est ça la méthode. La méthode, c'est que si tu peux agir, tu agis. Tu vois, tu fais quelque chose avec tes actes. Si tu sens que ça va être contre-productif, ça va être encore pire ou c'est dangereux ou quoi, bah, au moins tu parles. Tu dis, moi je suis pas d'accord, par exemple. Tu vois ? Tu dis, toi-même, par exemple, nous on fait quoi ? On propose une alternative. On dit, voilà, c'est ça l'école sunnite. Nous, vous dites ça, ben nous, on fait autre chose. Donc, avec la parole. Et au minimum, tu fais quoi? Au moins, dans ton cœur, tu n'aimes pas la chose. Au minimum, dans ton cœur, tu n'aimes pas la chose. Si tu n'es pas capable de la changer par tes mains, par ta parole, au moins, déteste-la dans ton cœur. L'imam Nawawi, dans son commentaire de ce hadith, dans son commentaire de Sahih Muslim, il fait une bonne métaphore. Il dit, l'acte, la parole... Et la langue, il dit l'acte, que si tu peux changer la chose avec ta main, il dit c'est qui? C'est l'État. L'État, la force armée, tu vois, la police, l'armée. Il dit la langue, c'est les ulamas, c'est les savants qui doivent critiquer le mal, d'accord, condamner le blâmable. Et il dit, le cœur, c'est qui? C'est Ammatnes, c'est-à-dire la masse des gens.
Okay.
C'est très intéressant.
Je voudrais rajouter un truc sur le fait que souvent on rentre dans des instituts pour le Coran, pour apprendre le Coran, pour le mémoriser ou pour le tajwid. Et souvent, en fait, du coup, on va rester dans ce même institut ou dans cette école pour apprendre le fiqh et tout ça, alors qu'ils ne sont pas forcément...
Ouais, c'est vrai.
c'est vrai. compétent dans, c'est vrai. Dans ces autres matières, quoi.
Bah, on peut rajouter ça, étant donné qu'il y a encore pas mal de monde, on va rajouter une précision, d'accord ? On a dit qu'il faut interroger le programme, interroger l'école de croyance, le madhhab qui est enseigné. Ensuite, rien n'empêche, pour celui qui est immunisé, il a appris la vraie croyance de l'islam, d'aller étudier, même dans un institut salafi. Rien n'empêche. Parce que aujourd'hui, la configuration, c'est laquelle ? La nôtre, c'est laquelle ? Le marché, j'appelle ça bien un marché, parce que c'est l'argent qui est au cœur du sujet. Le marché du Coran et le marché de la langue arabe, ils sont dominés par le wahhabi, salafisme. Complètement dominés. D'accord ? 90% des instituts qui enseignent le Coran ou qui enseignent la langue arabe, ils sont tenus par les salafis, par les wahhabis. Donc, si tu veux, tu connais pas la langue arabe, tu veux l'apprendre, quelque part, c'est un petit peu un incontournable. Comment tu vas faire ? Eh bien, toi, il faut que tu saches c'est quoi la croyance. Ensuite, tu vas t'inscrire que pour la langue arabe. Malgré que le professeur de langue arabe, dans son enseignement de langue arabe, il va te diffuser du salafisme. Bien sûr. Il va injecter sa croyance. C'est pas méchant, lui, parce qu'il y croit, tu vois. Mais, il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis par rapport à l'affection et l'amour qu'on peut porter pour un cheikh, pour un professeur, il faut faire la part des choses. Pas de culte de la personne, d'accord ? Tout le monde est susceptible de l'égarement. Comme il dit l'imam Malik, rahimahullah, il était à côté de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit ça, il a dit « Toute personne est susceptible de se tromper, hormis celui qui est allongé ici. » En parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde peut se tromper. Donc, c'est un humain, faillible, d'accord ? C'est ça, un professeur, c'est ça, un cheikh, il peut se tromper. Donc j'apprends ce que j'ai besoin d'apprendre. Si il veut m'apprendre les règles de Tajwid, même s'il est salafi, je m'en fous. Moi, je veux apprendre les règles de Tajwid. Je veux apprendre à réciter le Coran. Je veux apprendre la langue arabe. Je veux apprendre la grammaire arabe. Ben, j'apprends. Si, et seulement si, tu es immunisé. Tu sais c'est quoi la croyance de l'islam. Sinon, tu vas t'inscrire pour apprendre la langue arabe. Et comme tu as dit, tu vas t'apprendre après à la aqida. Après, tu vas apprendre al-fiqh. Et le fiqh, il va t'apprendre n'importe quoi. Directement, première année, bidayat al-mujtahid, direct. C'est-à-dire la comparaison entre les quatre écoles. Directement. Tu connais même pas une seule école, on va te donner la comparaison des quatre. Ça, c'est une méthode que tu trouves dans des instituts à Paris. C'est pas du tout la méthode classique, pas du tout la méthode traditionnelle, pas du tout une méthode qui a fait ses preuves. C'est une méthode de khalota, tu mélanges tout alors que t'as même pas de base. Mais, garder à l'esprit, même si je veux... C'est pour ça que je disais au début de mon intervention... À la aqida en premier. Apprends, c'est quoi ta croyance ? Apprends. Venez sur le groupe. Moi, je vous publie un document, je l'ai déjà publié, sur ce que doit connaître le musulman en termes de croyance. C'est un document très complet. Il est en français, il est très bien fait. C'est un des meilleurs documents qui existent en langue française. Tu ne trouves dans aucune librairie. Inch'Allah, on a le projet de le publier. Donc, prends ce document-là, mémorise-le, comprends-le, pose des questions. Tu as ça, tu l'as compris, digéré, bismillah. Va n'importe où, va apprendre n'importe où, va où tu veux. Parce que tu es immunisé, tu sais c'est quoi la croyance de l'islam, la croyance de la transcendance, Dieu n'est pas un corps, Dieu n'est pas au-dessus, en dessous, Dieu ne se déplace pas. Tout ça c'est des caractères rabaissants pour Allah subhanahu wa ta'ala. On peut évoquer, inshallah, ceux qui veulent savoir pourquoi. Alors pourquoi il y a un verset ou pourquoi il y a un hadith où le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, chaque tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel inférieur. D'accord, on peut expliquer pourquoi le hadith dit ça, et pourtant ce n'est pas la croyance de l'islam. Parce que le hadith explique le hadith. Il y a un autre hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, durant chaque nuit, à la fin, au dernier tiers de la nuit, Allah envoie un ange pour demander au serviteur qui veut que je lui pardonne. Donc on dit, ah d'accord, donc le hadith explique le hadith. On a d'autres, tu peux pas comprendre l'islam si tu prends un hadith ou un verset. Il faut prendre tout dans sa globalité en même temps. D'accord ? Donc tu comprends pourquoi le hadith il dit ça ? D'accord, j'ai compris. En fait, le sens général, c'est Allah Ta'ala, il descend, donc c'est-à-dire la miséricorde descend. Et Allah Ta'ala, il fait tout. Il gère son univers, il utilise des intermédiaires, Allah. Allah Ta'ala, il ne prend pas l'âme des gens lui-même. Allah Ta'ala, il envoie l'ange de la mort. La fin des temps, elle va être décrétée. C'est Allah Ta'ala qui décrète, mais c'est l'ange Israfil qui souffle. D'accord ? Et ainsi de suite, c'est l'ange Gabriel qui transmet la révélation. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est pas parce que tu as lu Allah Ta'ala descend, ça veut dire que c'est lui-même qui descend par son essence, avec son essence. Non, c'est pas comme ça. Ouh là là, pas du tout. Tu veux apprendre la croyance de l'islam, on va revenir, comment elle s'enseigne. Tu vas voir, tu vas comprendre, c'est pas comme ça du tout. Pas méchamment. D'accord ? C'est ça pour ça qu'on dit qu'ils sont littéralistes. Ils lisent de manière littérale. Or, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut comprendre, il faut voir l'histoire. Une fois, je me rappelle, j'étudiais avec mon cheikh, et on étudiait, en arabophone, c'était chez les arabophones, et il y avait un jeune, il a dit au cheikh, il a dit, mais cheikh, pourquoi tu dis Allah, il n'est pas au ciel? Il y a un verset qui dit, est-ce que vous craignez celui qui est au ciel? Alors, il y a un verset, il le dit, tu vois. C'est clair, c'est trop clair. Et c'est tous les versets où on pourrait... Parce que c'est vrai, il y a des versets, ça s'appelle des versets ambigus, justement. Le sens, il est ambigu, il est équivoque, il est bizarre. Il dit, mais regarde, c'est trop clair, cheikh. Les versets sont trop clairs. Le cheikh, il lui dit, oui, d'accord, donc si c'est trop clair, sûrement ce que tu dis, on va le retrouver si on ouvre un tafsir. D'accord? Parce que pour comprendre le Coran, il faut ouvrir son exégèse. D'accord? Il y a le Coran, il y a son explication. Donc il dit, si... Ce que tu dis, c'est tellement clair, c'est vrai, Allah est au ciel, c'est tellement clair, alors on ouvre une exégèse. Vas-y, dis-moi, laquelle tu veux qu'on ouvre? Celle de l'imam al-Qurtubi, l'imam ibn Kathir, laquelle? Jalalayn, montre. Il n'y a pas une exégèse qui dit que Dieu il est au ciel. Comment t'expliques ça, mon frère? Si c'est si clair, non, c'est pas clair. Justement, c'est un verset pas clair, il s'appelle un verset pas clair. Donc toi, tu dis, il est clair, alors il n'est pas clair. Tu vois? C'est ça, ça rentre dans les sciences du Coran, tout à l'heure j'ai cité. Les circonstances de la révélation, al-nasikh ou al-mansukh, l'abrogé, l'abrogeant, la chronologie, il y a quoi? Il y a l'explicite et l'ambigu. Le verset, il peut être explicite comme il peut être ambigu. Ben, faut connaître ça. C'est quoi la liste des versets ambigus? Ces versets-là, on les montre parenthèse, d'accord. C'est pas les bases de la croyance, d'accord. On comprend le verset ambigu à la lumière du verset explicite, pas le contraire. Ben, les salafis et wahhabis, ils comprennent l'explicite à la lumière du verset ambigu. C'est l'ambigu qui fait foi pour eux. C'est n'importe quoi, tu vois.
Et j'aimerais savoir, pour les versets équivoques, on dit qu'un verset, il est équivoque. Pourquoi? Parce qu'on a listé tous les versets équivoques, ou bien alors, un verset, il est équivoque quand il peut porter à interprétation, et chaque verset qui peut porter à interprétation,
non,
il devient équivoque.
Non, les versets ambigus, ils sont listés par les ulama, déjà, par les spécialistes du Coran, et c'est les versets dont le sens, il peut donner une corporalité à Dieu. Il peut laisser entendre. Ça ne veut pas dire qu'il dit ça, mais il peut laisser entendre. Alors, c'est comme si on le met entre parenthèses, on le protège, on dit, attends, lui, on va le traiter après ce verset-là. On va voir déjà ce que dit le verset muhkam, c'est-à-dire le verset explicite, dont le sens il est clair, on va comprendre l'ambigu à la lumière de l'explicite. D'accord? C'est tous les versets. Les versets ambigus, c'est lesquels? C'est les versets sur Al-Yed, Al-Wajj, Al-Istawa, d'accord? Sur l'Arche. C'est tous les versets qui donnent un sens, qui pourraient laisser penser que Dieu a un corps. Donc tous ces versets-là, vu que ces versets-là, ils contredisent d'autres versets où Allah Ta'ala, il dit, Allah Ta'ala, rien n'est tel que lui. Laysa kamith li shay. Rien n'est comme Allah. Mais d'un côté, Allah il dit ça. D'un autre côté, il dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et seul persistera la face de ton Seigneur. Tu dis, bah, alors Allah il a une face, ou il est pas comme, il ressemble à rien. Ça a l'air contradictoire. Donc on dit quoi? Le clair, c'est rien ne lui ressemble. L'explicite, le pilier de la croyance, c'est rien ne lui ressemble. Allah il ressemble à aucune de ses créatures. L'ambigu, c'est quoi? La face de ton Seigneur. Ah, mais c'est quoi la face? Ah, d'accord, ça veut dire l'essence de ton Seigneur. C'est-à-dire ton Seigneur. Parce que c'est de la langue arabe. C'est de la langue arabe. Faut traduire le sens, pas le mot. Si tu dis le visage de ton Seigneur, t'as rien compris à la langue arabe, ça veut dire. Al-Wajj, dans ce sens-là, ça veut dire quoi? L'essence divine. Lui-même, Allah Ta'ala, ne disparaîtra pas. D'ailleurs, les ulama, ils font la réfutation de ça. Ils disent, ceux qui disent que Allah il a un Wajj à cause de ce verset-là, alors, tout va disparaître à part Al-Wajj. Et l'Yed, il va disparaître alors. L'Yed il disparaît et pas le Wajj. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi en fait. Ça n'a ni queue ni tête cette histoire-là. Tu sais, en vérité. Tu sais, il suffit de réfléchir deux secondes. En vérité, c'est bête. Hein. Tu vois, l'anthropomorphisme, c'est bête en vérité. Tu n'as pas besoin d'être un grand érudit. Hein. Tu vois, c'est la croyance. C'est une croyance de dessin animé. Tu vois. C'est quoi ce Dieu? Tu vois, ce Dieu qui a un pied, qui a une main, qui monte, qui descend, et qui est assis sur le trône. Et avant d'être sur le trône, il était où? Il change.
Qu'est-ce qu'ils disent alors par rapport, par exemple, dans la sourate Al-Imran, au verset 7, quand on nous parle des versets équivoques, c'est quoi là? Parce qu'on nous met en garde, au contraire, enfin justement.
Mais c'est Allah Ta'ala qui le dit lui-même. Il dit, nous avons mis dans le Coran des versets clairs et des versets équivoques.
Et pourquoi ils ne le prennent pas en compte alors ça, justement?
Ben eux ils le comprennent à leur sauce. Ils vont dire, parce que Allah Ta'ala, il dit à la fin, et ceux qui ont le cœur qui penche vers le mal, ils vont comprendre vers le mal. Et en vérité, il n'y a que Allah qui connaît leur interprétation. Eux, ils vont dire, bah voilà, vous interprétez, vous. Allah, il vous a dit de pas interpréter. Pourquoi vous interprétez? Mais nous, les sunnites, ils interprètent pas. Hein. Ils disent, parmi tous les sens possibles, prends celui que tu veux. On garde que les sens qui acceptent et permettent la transcendance de Dieu, qui correspondent avec le verset Laïsa Kamit Lishay, ou les autres versets qui disent que Allah Ta'ala, il n'est semblable en rien à sa créature. Donc c'est ça, tu fais coïncider les deux versets. Les deux versets font sens. Mais si tu dis que d'un côté, rien ne lui ressemble, d'un côté, le verset, il dit, il y a une main, bah alors il y a plein de choses qui ont des mains. Donc c'est contradictoire, tu fais se contredire le Coran.
Ça.
En vérité, je te jure, t'as pas besoin d'étudier beaucoup. Même t'as pas étudié Jawaharatul Tawhid, t'as pas étudié l'Aqida, etc. Franchement, ça c'est du bon sens. C'est du bon sens.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est de la logique, c'est bon sens.
Quoi. Ah oui. Subhanallah, regarde la puissance des savants de l'islam. Ils ont été très scrupuleux en parlant de l'Aqida, et aucune époque de scientifique n'a jamais réussi à démonter la croyance sunnite d'un dieu absolument transcendant et ni dépendant de l'espace, ni dépendant du temps. Parce que si tu dis, toi, au 12e siècle, on n'avait pas les fusées, on n'avait pas les télescopes Hubble pour voir la naissance de l'univers, le Big Bang, etc. On a rien de tout ça. Donc, à l'époque, avec les superstitions de l'époque, tu pouvais te dire, ouais, peut-être Dieu, il est au ciel, tu vois, il est tout loin, 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 là. Bah, les savants sunnites, ils ont dit non. Et aujourd'hui, la science, elle ne peut pas démonter ce qu'ils ont dit les savants. Allah ne dépend pas de l'espace. C'est lui qui a créé l'espace. Il n'est pas inclus dans l'espace. Il a créé l'espace. Si tu dis que Allah, il est dans l'espace, au-dessus, donc tu dis quoi? Tu dis qu'il y a quelque chose qui entoure Allah. Quelque chose est plus grand que Allah. Les savants sunnites, ils ont toujours dit ça depuis les premières générations des salafs. Et aujourd'hui, la science, elle est incapable de... Malgré toutes les découvertes technologiques, ça confirme tout à fait la croyance sunnite. Une fois, il y avait un savant, tu parles, un prédicateur salafi, en Australie, tu peux retrouver la vidéo sur YouTube. Et même il a une sorte de salouel et il monte, on voit son tibia, on voit son mollet. Et tu sais, il lève, il pose sur la chaise. Je te dis ça pour que tu reconnaisses. Il parle de soi-disant, il est où Dieu? Soi-disant, il est au-dessus du ciel. Et il dit, tu sais, imaginez vous prenez une fusée. Tu prends une fusée, tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes avec la fusée. Elle monte. Hop, t'atteins le premier ciel. Après, la fusée, elle continue, elle monte, etc. Deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au septième ciel. Il dit, après, tu montes au-dessus du septième ciel. Sidr al-Muntaha, le lotus de la limite. Après, tu montes encore avec la fusée. Et là, il y a Allah. N'importe quoi. Raconte n'importe quoi. Déjà, tu montes. Ça veut dire quoi, déjà, monter, déjà? Dans l'espace, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, déjà. Allah, il est où? Si tu vas dans un sens, il n'est pas dans l'autre. Donc, c'est quoi, cette histoire? Qu'est-ce que tu racontes? Les savants sunnites, ils n'ont jamais dit ça. Et la science, elle nous a pas fait mentir. Une découverte scientifique sur l'astronomie.
Par rapport au lotus de la limite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'à ce moment-là, et même quand il a rencontré Allah, il était aussi proche que Younous.
Voilà, exactement. L'imam al-Bayhaqi, un grand savant de l'islam, savant du hadith, il rapporte une parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand j'étais au Sidr al-Muntaha, je n'étais pas plus proche de manière spatiale d'Allah que mon frère Younous quand il était dans le ventre de la baleine. Je n'étais pas plus proche. Donc Allah Ta'ala, il n'est pas au ciel. Et l'élévation du prophète, ce n'est pas pour le rapprocher spatialement. C'est un rapprochement honorifique. D'accord? Il monte les cieux parce que c'est honorifique. Et de cieux, c'est là où résident les anges, là où il y a la table bien gardée. Mais ce n'est pas là où il y a Allah lui-même. Ben non. Sinon, ça ne veut rien dire, en fait. Il est où, le haut? La terre, elle est circulaire, tu vois. Tu montes haut, monte par là, ben donc Allah, il n'est pas dans l'autre sens, alors. C'est n'importe quoi. Déjà, je t'ai dit, les salafs, ils n'ont pas d'outils d'astronomie comme nous, technologiques. Ils ne disaient pas ça, déjà. Ils disaient, non, la croyance de l'islam, ce n'est pas ça. Allah, il ne dépend pas de l'espace. L'espace ne le concerne pas. Le temps ne le concerne pas. Il les a créés, c'est des créatures. Et en fait, ça confirme tout à fait ce que tu vois dans la science. Dire, ah ouais, t'as vu l'étendue de l'espace, le Big Bang, les galaxies qui s'éloignent, etc. Ah ouais, d'accord, pas de problème. La croyance de l'islam, c'est pour ça que l'islam, il a toujours fait bon ménage avec la science. C'est que les savants, ils ont toujours été très prudents et intelligents. Contrairement à d'autres, par exemple, d'autres religions ou d'autres systèmes de pensée qui ont conclu des mauvaises choses, qui ont falsifié leurs livres, etc. Jusqu'à qu'ils sont tombés dans des égarements. Wallahu a'lam. Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour cette intervention, Inch'Allah, et on continue à faire des petits rappels comme ça. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre participation. Barakallahu fikoum wa assalamu alaikum.
Barakallahu fik.
Wa alaikum.
Jazakallahu khairan.